France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Clément Berman à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Alors Fermentaire, c'est l'idée de créer un événement autour de la fermentation et des produits vivants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à se réalimenter vraiment en réfléchissant à l'aspect notamment nutritif, santé, etc.
L'idée vraiment de ce festival organisé par Pierre-Lieu Sud-Touraine est de faire connaître un petit peu cette méthode de cuisine, on va dire, autour de la fermentation.
Aujourd'hui, ça démontre vraiment la vitalité et puis la diversité de ce qui se produit en, disons, à l'échelle de la région, parce qu'on vient aussi des départements limitrophes.
Et il faut se présenter partout pour faire marcher les villages, quoi, de toute manière. Donc, il faut être là, il ne faut pas dire que les gens font rien si on ne vient pas, quoi. Donc on se présente partout.
Fermentaire, des festivals comme celui-là, il y en a de plus en plus. Et si c'est un phénomène nouveau, ceux qui y participent ne sont pas de dangereux illuminés. Que vient faire la fermentation dans une émission de philosophie, vous demanderez-vous? Elle y trouve sa place, oui. Car à l'heure où le monde ne tourne plus vraiment rond, on cherche naturellement le premier moteur d'une vie cyclique. Et ce moteur, cette vie sans cesse renouvelée à partir d'elle-même, eh bien c'est la fermentation. Deux ouvrages vont nous aider à y voir clair, deux invités surtout, Anne-Sophie Moreau, rédactrice en chef à Philosophie Magazine, auteure d'un livre intitulé « Fermentation » au pluriel, sorti aux éditions du Seuil, Étienne Huendo, qui publie aux Équateurs « Fermentation, rébellion, petite philosophie de la fermentation ». Anne-Sophie Moreau, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la fermentation, c'est-à-dire au fond le processus d'une vie microbienne, suscite en premier lieu un dégoût? C'est-à-dire que la vieille pomme pourrie qui traîne dans une jatte ou bien un morceau de comté sur lequel il y a un petit peu de bleu, on a envie de le mettre à la poubelle en un premier lieu.
Oui, effectivement, le fermenté ou plutôt le moisi ou le pourri, le moisi, oui. En sachant que la différence entre les trois n'est pas évidente. La fermentation, en fait, c'est la dégénérescence maîtrisée. Voilà, c'est une action de micro-organismes sur une matière qui la transforme par ce fait, mais qu'on considère comme maîtrisée et donc comestible. Mm-hmm. Tandis que le moisi, c'est une transformation dans laquelle les mauvaises bactéries et des agents pathogènes ont pris le dessus. Et donc, c'est le point de départ d'une décomposition. Tandis que la fermentation, elle entraîne une forme d'équilibre avec de bonnes bactéries qui, au contraire, provoquent non pas la mort, la décomposition, la fin de la forme qui terrasse les éléments et les fait redevenir poussière, mais au contraire, elle permet de conserver, parfois même indéfiniment, voire même de nous faire entrer dans l'éternité.
Et on consomme pas mal de produits fermentés sans même le savoir, en fait.
Oui, bien sûr. Alors, la fermentation, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça fait des millénaires que l'on fait fermenter des aliments. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une technique qui a toujours été considérée comme mystérieuse, parfois dégoûtante. On est souvent dégoûté par le fermenté de l'autre, hein, les harengs fermentés des Scandinaves, le natto japonais, tandis que chaque région, chaque
a sa propre
a sa propre fermentation, sa propre vie microbienne dont elle est fière finalement. Ouais. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est non pas le fait qu'on a toujours fait du roquefort, du saucisson, voilà, parce qu'il y a énormément de produits dans l'alimentation, du vin évidemment, qui sont fermentés, mais c'est le fait qu'il y a une sorte de regain d'intérêt actif et conscient. On a parlé vous avez parlé des festivals de fermentation, mais voilà, il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui. On a non seulement voilà des néo-ruraux, des croissants qui s'amusent à faire des légumes en bocaux, du pain au levain, etc. Mais il y a aussi, par exemple, des start-up qui font de la fermentation de précision pour produire des succès d'années de viande à partir de bactéries. On retrouve le compost en agriculture. Des designers veulent faire des meubles à partir de mycélium, cette partie souterraine des champignons. Bref, il y a un regain d'intérêt actif pour ces micro-organismes, finalement, qu'on ne connaissait pas, parce qu'avant, on faisait fermenter des aliments, mais on ne savait pas qu'est-ce qui était derrière. C'était presque considéré comme un processus parfois même magique. Mmh. Depuis Pasteur, on connaît les processus de fermentation, on sait que ce sont des bactéries qui provoquent la fermentation, mais on sait aussi depuis Pasteur que ces bactéries ou ces micro-organismes sont dangereux, peuvent être aussi vecteurs de maladies. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que dans nos sociétés finalement très aseptisées, très hygiénistes, où l'asepsie pasteurienne avait, on va dire, triomphé au XXe siècle, nous sommes aujourd'hui enthousiastes à nouveau, et ça nous fascine.
Dégoûté hier, fascine aujourd'hui.
Voilà, voire même nous considérons les microbes comme des alliés.
Tien Yuendo, vous animez, vous allez nous parler de vous parce que le vin aussi vous intéresse, mais vous animez des ateliers de fermentation, et la première question que vous posez, je crois, aux personnes que vous recevez, c'est « citez-moi un produit fermenté ».
Tout à fait.
Alors qu'est-ce qu'ils disent, les gens ?
Il y a souvent un flottement, parce que ça ne nous vient pas immédiatement. On a vraiment perdu ce lien à la fermentation que moi, je ne viendrais pas accoler à une putréfaction, une dégénérescence. Ouais. Au contraire, la fermentation, c'est une transformation métabolique de matières organiques en quelque chose de plus bénéfique, ou en tout cas de quelque chose d'utile. La méthanisation, c'est une fermentation. La fermentation a des fins de conservation, de préservation. Le humus qui se forme, c'est une fermentation. Donc, ce n'est pas une dégénérescence, ce n'est pas une putréfaction.
Et c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Et d'ailleurs, puisque vous-même, vous êtes viticultrice, la fermentation, ça fait partie du processus de...
C'est le cœur même de notre métier. C'est-à-dire que sans les micro-organismes, il n'y a pas de sol vivant, il n'y a pas d'agriculture, mais dans notre cas, il n'y a pas non plus de vinification. Mmh. Et on a souvent tendance à l'oublier que dans la nature, partout autour de nous, partout sur nous, en nous, il y a des levures, il y a des bactéries, et ne sont pas toutes mauvaises, pathogènes. Au contraire, 99% des bactéries, des levures, des moisissures sont bénéfiques pour nous, et on en a besoin pour vivre tous les jours, nous tous. Toutes, nous fermentons, c'est la digestion. Donc ça fait vraiment partie de la vie. Il n'y a vraiment pas cette notion de mortalité ou de morbidité, il y a vraiment cette notion du vivant dans la fermentation. Et effectivement, on a perdu ce lien avec le vivant, avec l'alimentation. Et souvent, il y a ce moment de flottement dans mes ateliers où les gens ne savent pas quoi répondre, alors que dans nos placards, on a tous au moins un produit fermenté. C'est les olives. Sans fermentation, l'olive n'est pas comestible. C'est la moutarde. La moutarde était fermentée avant. Le ketchup était fermenté. Le tabasco est fermenté. La vanille, sans fermentation, il n'y a pas l'exaltation des arômes de la vanille. Le cacao, le café, les yaourts, évidemment, le vin, la bière, le pain. Et en fait, donc, il arrive souvent que les gens se disent non, non, et puis je ne mange pas fermenté, non, non. Et puis, ah oui, mais si, en fait, je fais du kombucha, ah, mais non, je fais mon vinaigre, etc. Donc, en fait, on est beaucoup plus à fermenter qu'on ne le pense.
Mais qui est-ce qui a fait que vous avez choisi de vous orienter dans cette voie-là ? Parce que, si j'ai bien compris, dans une autre vie, une vie précédente, vous étiez conseillère juridique à Bruxelles et vous vous occupiez de biodiversité et de protection de la nature.
Exactement.
C'est l'amour ?
C'est l'amour, c'est un peu le... J'ai suivi mon conjoint vigneron, effectivement. Mais c'était aussi dans la même continuité que mon précédent boulot. J'étais conseillère juridique, effectivement, en droit de l'environnement. Je rédigeais des textes de loi pour protéger la nature, pour ramener cette diversité, cette biodiversité. Et en fait, en tant qu'agricultrice aujourd'hui, en tant que paysanne, notre métier, c'est aussi ça. C'est en fait se rendre compte que l'agriculture intensive est devenue délétère pour la planète, est devenue délétère pour ces micro-organismes. Donc, comme le disait Anne-Sophie Moreau, on est dans une société javelisée où les pesticides, les traitements, en fait, anéantissent ce vivant. Et donc, tout l'enjeu maintenant, c'est de ramener, en fait, l'attention sur ces micro-organismes et, en fait, se rendre compte que sans eux, il n'y a pas de vie.
Annie Ibrahim, elle a consacré plusieurs ouvrages à Denis Diderot.
Je crois que si l'on voulait à tout prix, en étant fidèle à une histoire assez commune de la philosophie, assigner un transcendantal à la pensée de Diderot, ce qu'il aurait certainement récusé, je crois que le seul transcendantal qu'on pourrait lui assigner, c'est la métamorphose. La métamorphose des êtres les uns dans les autres, la métamorphose d'une espèce dans une autre espèce. Et seule la métamorphose caractérise ces mouvements des êtres les uns dans les autres, ces transformations, cette fermentation de l'univers dont il parle souvent.
La fermentation, la métamorphose dont parle Diderot, cette interdépendance aussi, Anne-Sophie Moreau, entre les espèces au fond.
Oui, y a quelque chose de très intéressant dans l'histoire de la pensée, et qui est souligné par Gaston Bachelard dans la formation de l'esprit scientifique, c'est le fait que certains penseurs ont opéré un parallèle entre la digestion et la manière dont fonctionne l'univers. Alors, il y a eu longtemps des débats sur la digestion, parce qu'on ne savait pas comment ça fonctionnait. Il y avait certains affirmaient que la digestion, que l'estomac était comme une broyeuse, donc c'était une conception plutôt mécanique de la digestion. Et en face, il y a eu des penseurs qui disaient non, l'estomac procède plutôt à une sorte de fermentation. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes en train de revoir notre vision de la nature et de la planète. C'est-à-dire que pendant longtemps, on considérait Dieu ou bien la nature, on va dire Deus Sive Natura, comme une sorte de grand horloger, hein, et de plus en plus, on le considère comme un grand fermentateur. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des découvertes aussi très sérieuses, notamment chez Lynn Margulis, une biologiste qui a mis en valeur le fait que la vie émergeait justement de ce micro-vivant, de ces bactéries, de ces micro-organismes qui étaient présents très tôt
et
sur la surface de la Terre.
Voilà, c'est ça qui était là avant nous et qui seront probablement là après
qui
nous.
Qui nous survivront très probablement, bien sûr. Et si nous venons à disparaître. Et surtout que le vivant et la nature, et voire même les espèces organisées que nous connaissons aujourd'hui, les êtres vivants plus complexes, sont nés non pas d'une compétition entre espèces, comme le prétendait Darwin ou les darwinistes, mais plutôt d'une symbiose, d'une fusion entre bactéries.
Mais même pour les arbres, par exemple, puisque vous parlez de compétition, on dit que la verticalité des arbres est née d'une compétition qui se font les uns les autres pour aller chercher la lumière et le soleil.
Oui, c'est la vision d'Emmanuel Kant. Ouais.
Voilà, c'est ça. Mais il y a une autre vision aussi, qui est l'horizontalité.
Oui, alors effectivement, je consacre dans mon livre tout un chapitre à la manière dont nous avons, entre guillemets, abandonné l'idéal de verticalité. Dans nos sociétés, hein, je veux dire, avant, lorsque vous étiez un cuisinier, l'idéal c'était de faire une pièce montée, vous voyez, de construire.
On est toujours plus haut.
Pour un architecte, de construire des tours qui allaient de plus en plus haut, des gratte-ciels. Pour un individu, il s'agissait de monter dans sa carrière, de grimper les échelons. Or, aujourd'hui, on se rend compte que dans tous ces domaines, vous voyez, en cuisine, on fait des bouillons, on fait du fermenté maintenant. Le Noma, qui est un restaurant de Copenhague, a été élu pendant plusieurs années le meilleur restaurant du monde, et c'est un restaurant qui a fermé pour se consacrer, pour devenir un laboratoire de fermentation, voilà, pour se consacrer à la fermentation. Je vous parlais de la cuisine, mais les architectes aujourd'hui essayent, il y a de plus en plus d'essais pour par exemple faire des bâtiments à partir de mycélium. La NASA envisage de construire des bâtiments à partir de cette partie souterraine des champignons, mais aussi on essaye de faire, vous voyez, des habitats plus insérés, plus horizontaux dans la nature, etc., etc. Et quand on demande aussi aux jeunes aujourd'hui, il y a des mots d'ordre sur Internet, vous voyez, comme par exemple le bed rotting aux États-Unis, le fait de se laisser pourrir dans son lit, de rester allongé à l'horizontalité, de ne plus s'élever, ou pour les Chinois, bailan, de laisser pourrir.
Il y a même la belle mort à partir de l'humus aussi.
Oui, oui, hein, je parle aussi de l'idée de s'autocomposter après sa mort. Ah oui. Et ce que je vois là-dedans, c'est l'idée qu'énonçait déjà Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux lorsqu'ils disaient « nous sommes fatigués de l'arbre ». C'est-à-dire nous sommes fatigués de cette injonction à la verticalité, de cet idéal en fait d'une hiérarchie entre individus, et l'idéal de la fermentation et notamment du mycélium, voilà, de cette partie souterraine des champignons, finalement très rhizomique, très proche de ce que Deleuze décrivait dans le rhizome, en fait c'est un modèle de l'entraide et de la symbiose et d'une sorte de révolution décentralisée, visqueuse, mais qui est finalement une forme de résistance souterraine.
Et donc on veut au fond une forêt coopérative. Alors, ce qui est visqueux, ce qui est spongieux, ce qui est bouilli, ce qui est pourri, tout ça, Tien Nguyen Do, c'est associé aussi au féminin. Alors ça, c'est assez incroyable.
Alors, c'est féminin,
c'est associé au féminin, et ça a une connotation négative.
Ça a une connotation négative dans notre culture à nous et de, voilà. dans notre manière de penser en tant qu'occidentale. C'est-à-dire aussi que la fermentation, comme on a perdu le lien avec la fermentation, aujourd'hui on a l'impression que nous, on la retrouve dans les pays occidentaux, mais en fait c'est une fermentation de plaisir. Il ne faut pas oublier que 80% de la population mondiale continue à pratiquer une fermentation de la subsistance. Ça fait partie de leur quotidien, parce qu'à l'époque, et même encore maintenant dans certaines régions où il n'y avait pas de réfrigérateur, de congélateur ou de mode de stérilisation, c'est un moyen d'assurer la survie de l'espèce humaine.
Et c'était souvent du fait des femmes, c'est les femmes qui s'occupaient de ça.
Et en fait c'est ça, on s'est retrouvé désapproprié d'un savoir-faire qui existe depuis plusieurs milliers d'années. Les premières brasseuses de bière étaient des femmes. Mmh. Les premières personnes qui fabriquaient le skyr, qui est un yaourt islandais, étaient des femmes.
Donc il y a une idée de fécondité. Voilà.
Parce qu'effectivement, comme à l'époque, il n'y avait pas cette connaissance des micro-organismes, il y avait ce côté effectivement surnaturel, magique, et donc comme la naissance, il y avait un côté aussi magique et incompréhensible pour les êtres humains qui ne connaissaient pas encore la médecine et la manière dont ça fonctionnait. Donc tout ça était associé, effectivement, toutes les divinités associées aux alcools, aux boissons fermentées qui faisaient partie des rites et des croyances religieuses, sont des divinités et sont des femmes. On retrouve ça dans toutes les civilisations.
Il y a donc un féminisme fermentatif.
Et il y a un féminisme fermentatif
aussi. On peut penser à Françoise Héritier qui parlait de la valeur différentielle des sexes.
Oui, et puis justement parce qu'on peut prendre comme exemple les micro-organismes qui n'ont pas de genre. Et donc ça permet aussi de quelque part penser notre manière d'agencer la société. Ouais. Il y a effectivement, on peut parler de symbiose, mais c'est surtout plus correct de parler d'amphibiose. C'est-à-dire que les relations entre micro-organismes peuvent être de l'entraide, mais ça peut collaborative, mais elles peuvent être neutres, elles peuvent être temporaires, elles peuvent être plus longues. Comme dans les relations humaines, où on n'a pas tous que des relations toxiques, il y en a quelques-unes, mais aussi des relations très neutres, des relations bénéfiques.
Heureusement.
Et donc, la vie des micro-organismes peuvent nous donner matière à penser pour refaire société ensemble, de manière inclusive, sans distinction de genre, sans distinction de classe sociale, sans distinction d'origine, etc.
Un mot de Sophie Moreau ?
Oui, sur le féminin, alors moi en faisant mes recherches sur cette nouvelle mode du fermenté, j'ai été très surprise de constater qu'il y avait des féministes de la fermentation qui revendiquaient la fermentation de manière active. Et je parle notamment d'une anecdote un peu amusante, mais d'une étudiante américaine qui s'est amusée à produire du yaourt à partir de ses sécrétions vaginales, pardon pour le côté un peu ragoûtant.
C'est un peu jusqu'au boutiste, ça.
Mais ce que je trouvais intéressant, c'était qu'elle disait qu'elle avait produit un ferment qui lui était propre. Mmh. Et moi, je vois là-dedans aussi une manière de renverser le stigmate associé, finalement, à tout ce qu'on a considéré comme féminin dans l'histoire de la pensée. Ce sont des choses qui ont été effectivement mises en valeur par Françoise Héritier, des oppositions héritées d'Aristote qui est de la théorie des humeurs, dans lesquelles on considérait que la femme était froide et humide, et donc plutôt du côté de la corruption, de la putréfaction, tandis que l'homme, lui, était du côté de l'air et donnait la forme à cette matière finalement passive qu'était la femme. Et il me semble qu'en se réconciliant avec finalement ces matières visqueuses que créent les fermentations microbiennes, c'est comme si les femmes finalement venaient réaffirmer la puissance de cette matrice de la vie.
Réaffirmons là les fermentations au cœur de leur philo. Anne-Sophie Moreau et Tian Yuendo sont nos invités. Anne-Sophie Moreau publie un livre intitulé « Fermentation ». Quant à Tian Yuendo, elle est l'auteur de « Fermentation, rébellion ». Jacques Higelin, « Je suis mort », qui dit mieux ? La 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 la. Je suis mort, qui dit mieux? Bah mon pauvre vieux, voilà autre chose. Je suis mort, qui dit mieux? Mort le venin, coupé la rose. J'ai perdu mon âme en chemin. Qui la retrouve, cela m'est aux choses. J'ai perdu mon âme en chemin. Qui la retrouve, la jette au chien. Frère Lederia. Je m'avais collé avec une fumelle, alors ça c'est...
c'est la plus belle. Je m'avais collé avec une fumelle. Jour où j'ai brûlé mes sabots, j'y avais flanqué un marmot. Maintenant que son père est plus de ce monde, l'a poussé ce petit crève la faim. Faut que ma veuve lui cherche un parrain. Faire la neige elle y en avait déjà trouvé un. Et j'ai pas les yeux dans ma poche. Elle y en avait déjà trouvé un. Dame, faut prévoir en cas de besoin. C'est lui qui flanquera des taloches à mon petit haut pour qu'il se tienne bien droit. C'est du joli, moi je trouve ça moche de cogner sur un plus petit que soi. Cela dit, dans ce putain de cimetière, j'ai perdu mon humeur au morose. Jamais plus personne ne vient m'emmerder. Quand je me repose à faire l'amour avec la terre, j'ai enfanté des petits vers blancs qui me nettoient, qui me digèrent, qui font leur nid au creux de mes dents. Faire la nature, arrêtez-moi si je déconne. Arrêtez-moi ou passez me voir. Sans violette, sans pleurs ni couronne, venez perdre un moment cafard. Je vous ferai visiter des cousins morts à la guerre ou morts de rien. Esprit qui vous cligne de l'œil, les bras tendus hors du cercueil.
Ça fait du bien d'entendre Higelin. Achille Miklitarian, il est explorateur de fermentation et au micro de notre cher François-Régis Gaudry.
Le kombucha, c'est une boisson fermentée sans alcool. Et pour nous, le kombucha, c'est donc un ensemble de levures et de bactéries qui vont permettre la fermentation d'une boisson et d'en faire une boisson sans alcool avec toute cette typicité. Le kombucha, ça vient d'Asie. C'est une boisson plutôt millénaire qui, historiquement, est faite à base de thé. Et avec Pierre, mon associé, on a essayé de réinterpréter le kombucha, de le relocaliser avec notre sourcing à partir de feuilles d'arbres fruitiers.
Vous pouvez montrer comment ça se fabrique un kombucha avec les différentes étapes ?
C'est parti. Donc ici, c'est une cuve dans laquelle on entretient notre mère de kombucha, le SCOBY, le fameux SCOBY, qui est cet ensemble de levures, de bactéries.
Comme pour un levain en boulangerie, ça doit se nourrir en fait.
Exactement. On alimente et on entretient notre levain avec du thé. Puisqu'on sait que le thé va apporter suffisamment de nutriments pour permettre aux levures, aux bactéries de se multiplier et de tenir dans le temps. Et on fait pas mal d'expérimentations justement pour trouver des substituts au thé.
Toujours dans l'esprit d'avoir le kombucha le plus local possible.
Presque un kombucha de terroir en fait.
Un kombucha de terroir. C'est le thé de l'immortalité, ça a un lien avec le sacré, le kombucha, Tianyuendo.
Oui, en fait la fermentation, ce qui est absolument fabuleux avec la fermentation, c'est qu'on essaye d'étirer la vie. On essaie de reprendre la mesure du temps. La fermentation, c'est sur le temps long, ça se produit pas en quelques minutes, en quelques heures. Non, il faut attendre et avoir cette patience d'attendre. C'est ça aussi qui est magique dans la fermentation, c'est cette gratitude et cette joie renouvelée à chaque fois qu'on déguste un bocal, qu'on ouvre le four en voyant le pain sortir du four. Donc il y a vraiment ce temps long.
Vous avez quelques pages sur le pain qui sont absolument magnifiques et vous dites que plutôt quand on est invité chez quelqu'un, plutôt que d'apporter un bouquet de fleurs, on apporte un pain qu'on a fait soi-même.
Parce qu'en fait, l'intention, elle est absolument énorme, non ? Le fait d'avoir pensé à nourrir son levain pour ensuite pouvoir façonner le pâton, pour le pétrir, pour l'enfourner, pour ouvrir le four et ensuite l'apporter et le donner. La fermentation, c'est ça aussi, c'est quelque chose de très joyeux, de très positif, qui peut donner envie. Et en fait, c'est ce don de soi, ce partage. La fermentation, ça a toujours été quelque chose de collectif qui se faisait de manière communautaire avec vraiment cette idée de transmission de femme en femme, d'êtres humains en êtres humains. Et donc, il y a vraiment ce côté transgénérationnel
que moi je trouve important aussi à l'heure actuelle de retrouver, comme la cueillette sauvage par exemple, puisque en fait on est peut-être cette dernière génération perdue à pouvoir se réapproprier ces savoirs qui vont peut-être disparaître à tout jamais pour pouvoir le passer à notre tour à nos enfants dans une société qui est capitaliste, consumériste, où tout va très vite, on va dans l'immédiateté, on est aussi sur une uniformisation des goûts, une fadeur, une standardisation. Et en fait, la fermentation, c'est ça aussi, c'est retrouver le goût, retrouver une complexité, une densité dans les goûts. Donc, on a des a priori peut-être négatifs de la fermentation, parce que, comme je l'ai dit, on a coupé ce lien avec la fermentation. Mais quand on redécouvre tous ces produits fermentés, il y en a tellement, des centaines et des milliers, on a tellement toujours à découvrir tous les jours, tout le temps, qu'en fait, c'est vraiment une sensation unique de retrouver le goût.
Mais le kombucha, Anne-Sophie Moreau, il est un peu à l'origine d'ailleurs de votre réflexion, parce qu'un jour vous avez vu une étiquette sur du kombucha, boisson vivante.
Oui.
Et ça vous a titillé.
Oui, c'était le point de départ du livre, effectivement, où j'étais dans un aéroport, j'avais mal au ventre après une nuit fort arrosée. Et, je m'étais étonnée du fait que l'on me vendait une boisson vivante dans ce lieu si aseptisé qu'était l'aéroport. Et il se trouve qu'en même temps, j'étais en train de discuter par message avec un ami qui s'en employé à réfléchir à la généralisation du compost dans Paris. Et la question que je m'étais posée, c'était pourquoi est-ce que nous cherchons finalement à régénérer et nos entrailles et les artères d'une ville aussi minérale, par exemple, que la nôtre. Et il me semble que c'est intéressant et paradoxal le fait qu'on fasse appel aux bactéries, à des agents qu'on a toujours considérés comme dangereux, voire vecteurs, voir le point de départ de la décomposition lorsque ce sont de mauvaises bactéries, et qu'on y voit au contraire aujourd'hui une source, une manière de soigner sa santé, hein, voilà, puisqu'on se nourrit de l'intérieur avec de bonnes bactéries, voire même qu'on envisage cela dans une quête de longévité ou même d'immortalité.
Mais vous parliez de tous les phénomènes de digestion. Aujourd'hui, on le sait depuis Le charme discret de l'intestin, qui est un livre qui a fait un tabac.
Oui.
Notre intestin, je le rappelle, c'est 10 000 milliards de bactéries, hein, si je me trompe. On voit bien qu'il y a un lien entre cerveau et intestin, en tout cas certains le font, que l'influence de la flore intestinale sur nos émotions est une évidence.
Oui, il y a même des recherches très sérieuses, par exemple, sur la corrélation entre la dépression et le fait d'avoir une flore intestinale déséquilibrée. Mm-hmm. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut soigner la dépression en buvant du kéfir. Attention, il faut être très prudent de ce point de vue-là. Mais il y a des recherches très précises et très enthousiasmantes en la matière. C'est-à-dire que c'est comme si on venait de découvrir un nouveau monde.
En fait, qu'il y a une bactérie. Enfin, il y a un élément que contiennent les aliments fermentés qui est presque le seuil de la sérotonine, c'est ça ou je me trompe ?
Oui,
enfin, c'est un peu ça.
Oui,
modo,
alors oui, c'est très technique, mais encore une fois, c'est balbutiant tout cela. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que pendant longtemps, on a considéré le corps de la même manière qu'on avait considéré l'univers de manière avant tout mécanique. Voilà, on essayait de se réparer par la chirurgie ou de soigner par le passé la dépression avec des électrodes. On avait une conception finalement du corps comme étant une sorte de machine mue par une énergie similaire à l'électricité. Et de plus en plus, on considère véritablement le mystère de la biologie, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des processus nourris par une altérité, l'altérité microbienne. Et on voit ça à la fois dans nos corps, mais aussi à l'échelle de la planète. C'est-à-dire que on considère aussi qu'on ne peut plus, comme avant, face au réchauffement climatique, par exemple, on s'est dit pendant un certain temps qu'on allait peut-être pouvoir réparer le vivant, faire de la géo-ingénierie, que sais-je. Or, de plus en plus aujourd'hui, on se dit qu'au contraire, qu'il faut régénérer le vivant, qu'on n'est pas seulement là pour réparer une machine déréglée et la remettre à la bonne température, mais qu'il faudrait justement soigner la biodiversité à son échelle la plus infiniment petite.
Mais avec des projets de recherche, vous citez par exemple le French Gut.
Oui.
C'est ça qui est fait en collaboration donc avec l'INRAE, c'est-à-dire autour de la recherche agronomique et la PHP, donc l'hôpital, qui montre bien que en fait notre microbiote fait partie de notre identité et que à partir de là on peut aussi s'intéresser à certaines pathologies.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'on se rend compte que notre microbiote il est évidemment nourri. Alors déjà pour commencer, nous avons une sorte d'héritage microbien, c'est-à-dire qu'à la naissance on hérite de notamment de la flore de notre mère à la naissance, ensuite de nos parents et ensuite nos microbiotes au pluriel, hein, puisqu'on parle à la fois du microbiote cutané, intestinal, etc. Et pour la planète, on parle aussi du microbiote des sols. Donc nos microbiotes sont nourris par cet héritage microbien, par l'expérience, par ce à quoi nous sommes confrontés, et évidemment aussi par nos habitudes alimentaires. Et votre microbiote, il dépend aussi du terroir, de ce que vous mangez, de ces micro-organismes qui sont présents dans la région dans laquelle vous avez grandi.
Et des goûts qu'on peut apprendre, comme par exemple, alors parce que là, Tianyuanyu, il y a à la fin de votre livre des recettes, évidemment, je suis tout de suite allée regarder. Alors on peut faire par exemple des pâtes au citron confit et anchois, et on peut finir le repas avec des cookies au chocolat et miso. Ça plaît aux enfants, ça ?
Mais tout à fait. Moi, mes enfants dégustent régulièrement des produits fermentés. En fait, à nouveau, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un décrochage avec le vivant. Donc la modernité, l'agriculture intensive, l'agro-industriel nous a éloigné en fait de la fermentation qui est le vivant. Et en fait, on a
mais
plus
du
tout ce rapport.
Il y a des produits industriels fermentés.
Tout à fait.
Sauf que c'est une fermentation qui est
industrialisée. Voilà. En fait, une fermentation telle qu'elle est, que tout le monde peut pratiquer chez soi, c'est une fermentation spontanée, naturelle, qui demande très peu de matériel, qui est très simple à appliquer. Et c'est pour ça qu'en tant que telle, la fermentation porte en elle un universalisme absolu. Il y a vraiment une accessibilité, une simplicité. C'était de l'ordre du primitif et de l'intuitif, puisque quand on a commencé à fermenter le pain il y a 3000 ans ou le yaourt il y a 5000 ans, en fait, il n'y avait pas de connaissance à ce sujet. Donc c'était vraiment de l'ordre de l'intuitif et de l'empirique que les êtres humains ont commencé à fermenter. Et donc, toutes les considérations qu'on a maintenant par rapport à la répugnance par rapport à la fermentation ou ce côté la modernité, etc., c'est parce qu'il y a eu ce décrochage très très récemment par rapport à tout ce qui était vivant. En fait, on n'a plus l'habitude de manger vivant, de boire vivant, de consommer vivant. Alors que c'est l'essence même de notre vie sur Terre.
Patrick Berch, il est médecin et biologiste. Il parle de Pasteur. C'était ici même sur France Inter, dans la tête, à l'époque c'était pas la Terre, dans la tête au carré.
Il arrive en 1853 à Lille, et il est professeur de chimie à Lille et doyen de la faculté. Et là, il est interpellé, on peut dire, par Monsieur Bigot, qui est un brasseur et qui a des problèmes de production de bière avec des lots qui sont de mauvaise qualité, qui sont acides, et des lots qui sont excellents. Il comprend pas pourquoi. Ouais. Pasteur arrive avec son polarimètre et son microscope et résout le problème en quelques mois. Il s'aperçoit que les lots adultérés sont contaminés par des bactéries. C'est des bactéries lactiques, en fait. Et il va s'intéresser aux fermentations. En montrant l'idée force, c'est que chaque fermentation est due à un germe spécifique. La fermentation lactique, la fermentation alcoolique, la fermentation butyrique, et il va trouver un certain nombre de germes. Mm-hmm. Et ça, c'est l'origine probablement de la théorie des germes qu'il va ensuite étendre aux maladies infectieuses.
Ah, il faudrait quand même pas oublier ce grand scientifique que fut Louis Pasteur. Dans l'ordre, il y a la fermentation, la stérilisation, la pasteurisation, puisque ça a donné son nom. La pasteurisation, ça vient de Pasteur. C'est une opération qui consiste à chauffer un liquide fermenté cible et à la refroidir ensuite brutalement pour pouvoir en détruire les germes pathogènes, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a justement pas ce risque, parce qu'on a aussi parlé de botulisme, je ne sais pas si ça a à voir, mais en tout cas, et de mort qu'il y a eu à la suite de ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, là, des auditeurs qui sont en train de nous écouter, qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce retour en arrière, c'est dangereux?
C'est pas dangereux du tout, puisque ça existe depuis des milliers d'années. Et si ça avait été dangereux, on ne serait pas là pour en parler aujourd'hui. Donc les êtres humains ont toujours fermenté sans qu'il y ait jamais de problème. Et là où aujourd'hui il y a des problèmes, effectivement, c'est parce qu'on est dans des processus de fermentation industrielle. Un fromage au lait cru, par exemple, a beaucoup plus la capacité de se défendre contre les bactéries de la listériose qu'un fromage au lait pasteurisé. Il porte en lui, le fromage au lait cru, toutes les bactéries, toute la flore bactérienne qui lui permet en fait d'éliminer les pathogènes. Ouais. Le botulisme, c'est une bactérie qui, dans certaines conditions de chaleur, va sporuler, produire des toxines qui est inodore et incolore et qui peuvent nous rendre malades jusqu'au point d'en mourir.
Il y a eu une histoire de pesto à l'ail,
par exemple, en Touraine, avec des ours, etc.
Il y a eu des sardines aussi mises en bocaux
par un restaurateur. La fermentation est sans risque du tout, parce que si vous ratez votre fermentation, si les pathogènes ne sont pas éliminés...
Ça se voit ?
Ça se sent.
Ça se sent.
Ça sent excessivement mauvais. Vous ne pouvez pas consommer. Alors qu'un bocal qui est mal stérilisé, souvent pourquoi ? Parce qu'on considère que 2 heures c'est très long, alors je vais raccourcir, je fais 1 heure et demie. Non, parce qu'en fait, le botulisme, la bactérie, elle va se multiplier avec la chaleur. Et il faut en fait un niveau de température atteint pendant une certaine durée pour que la bactérie puisse être éliminée. Si vous n'atteignez pas ce niveau, elle n'est pas éliminée, au contraire, elle a plus se multiplier. Donc souvent, la stérilisation, non seulement elle tue toute vie, puisqu'elle élimine à la fois les pathogènes, à la fois les bons micro-organismes, et en plus comporte des risques de sécurité alimentaire.
Alors,
si elle n'est pas bien pratiquée.
Si elle n'est pas bien pratiquée. Là aussi, j'ai envie d'en revenir à un sujet philosophique, Anne-Sophie Moreau, qui est le temps. Il faut du temps pour tout ça.
Bien
sûr. Comme du temps au pain pour que le levain
bien sûr devienne du pain. Et ce que je trouve intéressant aussi dans les parce que voilà, il y a beaucoup de paysans fermenteurs, voilà, comme qui s'affirment contre ce système finalement parfait de la logistique de l'agroalimentaire, dont on s'est rendu compte pourtant qu'il était très fragile, notamment avec la crise du Covid, mais même avant, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui se méfient en se disant nous sommes face à une crise écologique, les guerres reviennent, etc. Je vais chercher à conquérir une forme d'autonomie alimentaire, notamment avec la fermentation. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi les gens font fermenter des choses alors qu'ils ont des frigos, des conserves, voilà. Mais il y a une véritable recherche d'autonomie alimentaire, à la fois chez des individus, mais aussi au niveau national. L'État a lancé l'initiative Ferment du Futur, qui est dotée de 50 millions d'euros, qui cherche à conquérir la souveraineté alimentaire par la fermentation. Sous-entendu, on ne va plus importer de la viande de l'autre bout de la planète, mais on va faire fermenter nos propres aliments et donc on va conquérir aussi une forme de souveraineté, d'autarcie,
en construisant de nouvelles enveloppes en quelque sorte, et de penser que la mondialisation protectrice c'est un fantasme et qu'on peut le, on peut, enfin voilà, il a disparu, il disparaît.
Oui, bien sûr. En fait, c'est comme si on revenait, c'est comme si on était revenu finalement de l'idéal d'une croissance infinie, d'une croissance économique et qu'on revenait à une sorte de perfection des sphères, voilà, avec les légumes en bocaux. Et il me semble que en ce sens, la fermentation, elle procède aussi d'un modèle politique. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on cherche beaucoup de, on est toujours à la recherche de nouveaux récits de l'écologie. Voilà, on entend toujours ça. Or, lorsqu'on parle de décroissance, c'est assez peu motivant pour les gens. Pourquoi ? Parce que la décroissance, enfin, ou la croissance telle qu'on les entend aujourd'hui, c'est-à-dire la croissance du PIB, etc., ça relève, dirait Aristote, d'un changement de quantité. Aristote, il différencie, il fait la distinction entre les différents types de changements et de mouvements. Il dit que la croissance et la décroissance, c'est un changement du point de vue de la quantité. Or, il y a une autre opposition entre deux concepts qui me semble finalement plus intéressante, qui est l'opposition entre ce qu'il appelle la corruption et la génération, qui sont un changement du point de vue de la qualité pour Aristote. Et il me semble que aujourd'hui, en s'intéressant finalement à ce qu'on considérait autrefois comme une source de dégoût, le moisi, finalement, on est en train de se rendre compte qu'on peut peut-être trouver une forme de modèle, non pas dans le moins de la décroissance, mais dans une forme de régénération qui passe au contraire par le moisi, par la dégénérescence.
On est plus dans une sorte de déconstruction que d'une dissolution de ce que l'humanité a érigé jusqu'à présent.
Oui, alors il y a tout un chapitre où je m'intéresse justement à cette ambiguïté, c'est-à-dire que, parce que je développe aussi tout le fait que, par exemple, dans l'urbanisme contemporain, puisque je m'intéresse pas que à la fermentation, je m'intéresse plutôt, alimentaire, je m'intéresse plutôt au symbole finalement de notre rapport aux microbes, aux microvivants. Il y a par exemple toute une mode qui consiste aujourd'hui à retrouver, vous voyez, par exemple, mettre en place des mares dans Paris, laisser faire des murs végétaux sur les toits, etc. C'est comme si on voulait parfois faire disparaître la société de l'homo faber, d'un homme qu'on a considéré comme une espèce invasive, qui construit trop et qui détruit son environnement. Et donc on a parfois un petit peu le fantasme de faire disparaître les ruines de notre civilisation, vous voyez, sous des mousses, du lichen, des mauvaises herbes, etc. Il y a tout un romantisme post-apocalyptique que je trouve intéressant. Et donc toute la question que je me pose, c'est est-ce que nous sommes dans une fascination un peu morbide pour un déclin réelle ou fantasmée de nos propres civilisations, ou bien est-ce qu'au contraire, nous allons chercher une forme de régénération active de nos sociétés ?
Et transformer une herbe folle en herbe cultivée, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Oui. Pour moi, il y a une manière d'être décroissant. En fait, justement, la fermentation, c'est ça aussi. C'est la décroissance, comme le dit André Gorz, ça peut être aussi travailler moins. Et dans ce travailler moins, il peut y avoir une réappropriation des gestes de la subsistance, qui n'est pas forcément de l'autonomie. On ne cherche pas, en tant que paysan fermenteur, à être autonome. Au contraire, on est très fort dans le collectif, mais on cherche surtout à retrouver la subsistance qui devient un acte politique, comme Geneviève Pruvot le montre dans Vie quotidienne. C'est que, en fait, en posant tous ces différents jalons, on se réapproprie notre alimentation, on se réapproprie le temps, on se réapproprie différentes choses pour assouvir des besoins essentiels qu'on a complètement perdus, parce qu'on est à une époque maintenant où on ne mange plus, on consomme dans cette société capitaliste, dans ces sociétés de consommation. Donc on n'est pas vraiment dans une sorte de dégénérescence ou d'opposition à une société qui serait pourrie ou moisie. Non, c'est justement se rendre compte qu'il y a justement eu cette parenthèse de 70-80 années qui ont été délétères et pour la planète et pour notre société. Et donc on veut juste revenir à autre chose, à ce qui était avant, comme l'agriculture, et revenir à la paysannerie. C'est pas une nostalgie romantique et romancée d'une vie d'antan. Non, c'est prendre conscience, en fait, qu'on a été trop loin dans la modernité, dans la bétonisation, dans tous ces phénomènes qui, au détriment de l'humus, au détriment de la nature.
Très fort dans le collectif, comme à France Inter. Mmh.
Açmadı gülü gözleri.
C'était Derya Yirgimel et Turc, et son groupe est un groupe international, groupe Simsek. Le biologiste Marc-André Sellos, il est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, et c'était lors d'une conférence en 2019.
Pourquoi fermenter, puisque dès lors qu'on fermente, on nourrit des microbes au lieu de se nourrir nous-mêmes directement des aliments? Il y a un paradoxe fermentaire. Et ce paradoxe fermentaire, c'est que quand vous mettez une ressource à disposition des microbes, ben, ils vont fermenter, ça veut dire quoi? Ils vont se développer, ils vont grandir. Ils vont modifier une partie de la ressource, bon, mais qui sera toujours là. Ils vont produire du microbe, qu'on pourra toujours manger, mais ils vont aussi produire des déchets, des gaz en particulier, et toutes les odeurs qui s'échappent des aliments fermentés. Tout ça, c'est de la biomasse perdue. Donc en fait, quand on fermente, on ne récupère qu'une partie de l'aliment de départ. Ça, c'est paradoxal, surtout à des époques où le problème, c'était la sécurité de l'alimentation, la sécurité quantitative de l'alimentation qui était en question. Nourrir des microbes à une époque où on n'était pas sûr de manger, c'est un peu paradoxal. Alors, pourquoi fermenter ? Ben, je vais vous dire, l'histoire de l'origine de la fermentation, c'est le fait que dans toutes les transitions alimentaires, ça se passe mal. Quand on change d'alimentation, ben, on n'est pas fait pour la nouvelle alimentation. Et en fait, la raison de la fermentation, c'est une malbouffe qu'on a oubliée, c'est la malbouffe du néolithique, c'est que le début de l'agriculture fut chaotique, et vous allez voir, même toxique.
La malbouffe du néolithique, c'est assez drôle, mais est-ce que ça correspond à une réalité qu'on peut envisager, Thierry Miendo?
Mais pourquoi est-ce qu'on fermente, comme le dit Marc-André Sellos? Parce qu'il y a une quête de sens, une quête de sens de vie. Ça nous permet de repenser notre rapport au vivant, à la fois visible et invisible, mais une quête aussi de sens, de tous les sens. Quand vous massez votre chou pour le faire imprégner de sel, quand vous pétrissez votre pain, quand vous brassez la bière, c'est manuel, c'est profondément manuel. On met aussi en jeu, on fait rentrer en compte les oreilles, des beaucoup qui sifflent, qui chantent. Quand vous rentrez dans un chef de finification, ça bulle, ça gloglotte, il y a vraiment plein de bruits qui se passent. Ensuite, c'est le nez, l'odeur d'un pain, l'odeur d'un fromage, l'odeur du natto, l'odeur de tous ces produits fermentés qui ont des odeurs très spécifiques. Et ensuite, c'est le goût, et comme je le disais, ce goût retrouvé. Donc, on continue à fermenter. Effectivement, on continue à transformer la matière alors qu'on pourrait l'ingurgiter directement, de manière crue ou de manière cuite, mais parce qu'il y a vraiment une transformation aussi de soi-même. C'est une métamorphose individuelle qu'on peut retrouver dans la fermentation.
Et c'est une régénération donc à la fois intérieure, on l'a compris, et sociétale. Anne-Sophie Moreau, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure aussi.
Oui, bien sûr. Un point que je trouve important, c'est que nous sommes aujourd'hui de plus en plus terrorisés par la crise écologique, et il me semble que l'on va chercher finalement une sorte de résilience par les tripes dans notre nouveau rapport au micro-vivant. Pourquoi? Aussi parce que nous savons que les micro-organismes, les bactéries, les champignons, les levures, les lichens, que sais-je, sont dits extrémophiles pour beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire qu'ils non seulement ils survivent à des conditions très difficiles, mais voire même ils s'en nourrissent. On parle par exemple de champignons qui repoussent après des catastrophes nucléaires parce qu'ils se nourrissent des radiations même. Et Pasteur disait que la fermentation c'était la vie sans air, c'est une citation célèbre. Et il me semble que aujourd'hui, de plus en plus finalement, nous cherchons à nous préparer à un monde sans air dans lequel l'oxygène se fait rare, et finalement nous allons chercher en nourrissant notre corps de ces aliments vivants une forme de résilience, une nouvelle santé, une nouvelle force qui justement puise dans ces êtres vivants qui nous fascinent aussi parce qu'ils sont ils sont extrêmement forts. Ce qui ne les tue pas les rend plus forts, comme dirait Nietzsche. Et je pense que nous cherchons à nous en inspirer.
La résilience par les tripes, ça me plaît bien. Donc il faut raviver notre amour du vivant et s'éloigner en fait de tous nos fantasmes de pureté, au fond.
Tout à fait, et c'est comme Baptiste Morisot le dit, c'est retrouver une pensée des égards aux autres êtres vivants et ne pas se mettre dans une supériorité en tant que nous, fermenteurs, fermenteuses, et d'une volonté de maîtriser, de contrôler ces micro-organismes que de toute manière nous ne pouvons pas maîtriser. C'est vraiment la philosophie aussi de l'aléatoire, la philosophie
oui, parce que parfois ça marche pas.
Ah ben oui, c'est l'éloge de l'échec, parce que même en ayant fermenté, fait du pain régulièrement, ça arrive d'avoir des loupés. Faire du vin, c'est régulièrement des loupés. C'est l'éloge de l'échec et l'humilité et retrouver aussi cette forme de d'humilité qui nous permet de reprendre conscience des autres êtres vivants et de nous mettre à leur même niveau de manière horizontale.
Mmh. On peut dire qu'il y a une éthique donc du fermenté au fond.
Oui, oui, bien sûr. Et avec peut-être une nuance ou une question que je pose dans ce livre Fermentation, qui est finalement, est-ce que nous sommes vis-à-vis de la nature dans une forme de résignation? Vous voyez, lorsqu'on fait fermenter des aliments, en un sens, on lâche prise, effectivement, on laisse les micro-organismes.
C'est important aussi. C'est
important, on laisse les micro-organismes faire leur travail. De même qu'en agriculture, par exemple, on utilise de plus en plus du compost, on parle d'agriculture de conservation. Il s'agit finalement de mettre des micro-organismes à la surface et de ne plus y toucher, de ne surtout pas labourer les sols parce que ça risquerait de les abîmer. Et donc la question, c'est est-ce que notre rôle maintenant est de laisser la nature en paix, de ne plus y toucher, ou bien au contraire, d'avoir encore l'ambition de nous élever et d'essayer de lutter contre une crise que nous avons largement provoquée.
Anne-Sophie Moreau, merci. Fermentation au pluriel, kéfir, compost et bactéries, pourquoi le moisi nous fascine? C'est aux éditions du Seuil. Tien Yuendo, fermentation, rébellion, petite philosophie de la fermentation, c'est aux éditions des Équateurs. Merci à toutes les deux.
Merci à Martin.